choroti minyo gonye tigena choroti manyo gonye demise nguru ya ula juru kangadi demise nguru ya ula juru kangadi tigena choroti manyo gonye tigena choroti manyo gonye bamana njuru kagele bamana njuru mali bamana njuru kagele beta shido bamana njuru kagele bamana njuru mali bamana njuru kagele beta shido
Thank you. Mon frère, ma sœur, tous les week-ends du mois de juin, le cinéma s'installe dans les foyers des travailleurs migrants à Paris, chez toi, chez moi, chez tout le monde. Alors, l'association Attention Chantier t'invite à découvrir le vrai visage des foyers. On est fatigué des à côté à côté. Sur le thème de l'engagement politique des migrants, viens discuter avec nous. Manger un bon attiéké poisson ou bien un bon mafé bien pimenté avec du riz cassé trois fois, s'il te plaît. Voir des expos photos et danser au son de la musique djembé coupé décalé makossa. À la tombée de la nuit, viens découvrir et redécouvrir ces beaux films qui nous ont fait tant vibrer. Des films africains qui seront diffusés sur des écrans géants, c'est pas n'importe quoi. Hein. Alors, le festival de cinéma de foyer, c'est aussi le cinéma qui frappe à ta porte. Noir, blanc, jaune, violet, on est ensemble. Tout le programme sur attentionchantier.org. Tu as envie de rire, bah, tu vas pleurer. À bientôt.
Vous commencez à connaître ce rire et cette voix, et c'est celle qui annonce donc le troisième festival de cinéma des foyers, organisé par donc l'association Attention Chantier, qui a lieu donc tous les week-ends du mois de juin, dans différents foyers. Alors on part, on a commencé dans le 19e, puis le 20e, et ensuite on va à Saint-Denis, 17e et 13e arrondissement. C'est l'occasion donc de projeter des films, mais aussi de débattre de sujets. Donc notamment, je vous propose aujourd'hui, la diffusion du débat qui s'est tenu sur l'engagement des migrants en France. Et ce débat s'est tenu samedi 4 juin dernier au foyer Lorraine, donc dans le 19e arrondissement. Un débat sur l'engagement des migrants, comme je le disais, que ce soit sur le plan associatif, syndical, éventuellement politique. Et je vais vous proposer d'écouter les témoignages de ces migrants, mais aussi de ces militants. On va notamment entendre Salif, on va entendre Maudy, Farouk, Serge, Alassane, également une militante du COPAF, du collectif pour l'avenir des foyers. Et bah, pour commencer, on va écouter deux témoignages plus particulièrement, témoignages de lutte, d'engagement, de migrants sans papier. D'abord Salif Mandela, professeur d'anthropologie à la faculté de Paris 8, et puis Maudy Sacco, gréviste, qui a participé donc à la lutte des travailleurs sans papier.
Je me présente, Salif Mandela Djilé, je suis professeur d'anthropologie à l'université Paris 8. Je suis un militant et un engagé. Moi, je suis arrivé le 17 septembre 2001 à Paris. Je ne connaissais personne, pas de famille. J'avais été exclu à l'université de Bamako pour activisme parce que j'étais secrétaire général du syndicat de l'association des élèves et étudiants du Mali. Et j'avais fait 4 mois de prison ferme. Et du coup, une fois que j'ai été libéré, je suis allé au Burkina. Du Burkina, je suis allé en Côte d'Ivoire, où il y avait la FESI, Fédération des élèves et étudiants ivoiriens. C'est vrai que quand je suis venu ici, à Paris, bon, comme la plupart des jeunes à l'époque, j'étais très jeune, 2001, je n'avais pas de famille, et puis je ne savais pas où aller. J'ai beaucoup souffert, et j'ai dormi au foyer de Porte de Clichy, au sous-sol du foyer de Porte de Clichy. J'ai beaucoup dormi là-bas, et souvent je dormais dans la cuisine parce que je n'avais personne pour pouvoir m'aider. Mais malgré tout, bon, j'ai continué le combat. Et comme on dit, quand on chasse la nature, il revient en galop. Et à peine un mois après avoir eu ma carte d'étudiant, je me suis inscrit mon premier syndicat parce que je ne savais pas. J'ai été porte-parole de l'UNEF, à peine 2 mois arrivé ici, à Paris 8. Et 3 mois plus tard, j'ai été élu membre du conseil d'administration de l'université et représentant le syndicat étudiant. L'UNEF, je ne sais pas pour le moment. C'est-à-dire que mon appel va à l'endroit de mes compatriotes ou de mes compatriotes du continent, parce que je me suis dit, en 10 ans d'activité syndicale en France ici, j'ai été quand même déçu par la faible mobilisation des immigrés. Parce que très souvent, chaque fois quand il y a eu mobilisation, je me souviens. Et en 2003-2004, j'avais un copain qui était dans le même master que moi, qui avait été arrêté au centre de rétention, et il était dans l'avion Air France direct à Bamako. Nous avons pu quand même empêcher Air France de décoller avec ces derniers en se mettant sous les pieds de l'avion. Et quelques mois plus tard, on a tous été condamnés pour entrave vraiment à un avion de se décoller. Et moi, je me suis dit, heureusement, le jeune homme, il n'a pas pu être expulsé. Mais quand chaque fois à la résidence universitaire, on se déplace pour aller, je me déplace pour aller les voir, pour dire maintenant, le tour, c'est, toi tu as été sauvé, mais d'autres personnes, des milliers de personnes comme toi, sont dans des situations difficiles. Il va falloir que tu te déplaces, que tu te mobilises pour eux. Et j'avoue vraiment que la déception est très grande. Peu de personnes arrivent vraiment à se mobiliser. Aujourd'hui, ceux qui doivent être motivés, ceux qui doivent se battre pour leurs propres problèmes, c'est-à-dire que, je vois la plupart des gens qui sont ici, entre guillemets, on pourra dire les Français d'origine, entre guillemets, je pense que leur engagement doit être secondaire. Les vrais intéressés, c'est les sans-papiers. C'est eux qui doivent se mobiliser pour pouvoir vraiment parler de leurs problèmes. Or, de plus en plus, j'ai l'impression que ça devient... Ils ne se mobilisent pas. Les Africains ne se mobilisent pas pour leurs propres problèmes. Et quand il y a une manifestation de sans-papiers, rares sont vraiment... Il y a plus de gens qui sont dans des situations irrégulières que dans des situations irrégulières. Et moi, je trouve que ça, c'est désolant. Et ça s'explique. Parce que, j'ai toujours dit, ça s'explique. Nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes ne savent ni lire ni écrire. Or, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent, je suis désolé, c'est des critiques, mais il faut le faire. Les gens, quand ils viennent, moi, j'ai vécu dans un foyer comme ici. Les gens vivent dans les foyers. Ils sont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai dit à un moment donné, on ne peut plus accepter de vivre cette situation. Quand on vient dans un foyer, il faut essayer, dans un pays, il faut essayer de s'intégrer. Il faut aller à l'école, il faut apprendre à lire et à écrire. Quand on apprend à lire et à écrire, on est capable vraiment de connaître les mots de notre société. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne se donne pas les moyens vraiment d'apprendre à lire, vraiment il est voué à l'échec. Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes de cette communauté, c'est que les gens vivent dans le communautarisme, reclus sur eux-mêmes. Or, le communautarisme est une bêtise. Il faut sortir. C'est ce que moi je pense. Il faut rencontrer les gens, il faut discuter, il faut apprendre, il faut se battre pour ses droits. Quand tu ne te bats pas pour les droits, ce n'est pas les autres vraiment qui peuvent se mobiliser pour toi. Les autres doivent être là pour juste t'accompagner dans ta lutte. C'est ça, c'est ma vision. C'est certes, je suis rentré en France avec les papiers, mais je ne suis pas resté avec les papiers parce qu'à un moment donné, quand tu termines tes études, tu vas te retrouver. C'est-à-dire que quand moi j'ai terminé ma thèse en 2009, j'ai reçu un arrêté de reconduite à la frontière. Mais contrairement à, comment vous appelez mon frère, Maudit, je peux me considérer comme à l'époque un sans-papier de luxe parce qu'il a fallu une semaine que toute l'université se mobilise parce que je suis enseignant à la fac et le préfet m'a appelé. En deux jours, en une semaine, ils ont annulé l'arrêté de reconduite à la frontière contre moi parce que mes étudiants, 70 étudiants, plus les camarades, plus des amis qui sont ici, se sont mobilisés. Beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là. Ça, c'est ça le problème. Beaucoup de personnes, même demain, vont être reconduites à la frontière parce qu'ils n'ont pas de soutien pour pouvoir les empêcher à partir. Effectivement, ils n'ont pas pu m'expulser parce que le préfet est revenu sur sa situation, sur sa décision. Mais que cela ne tienne, malgré tout cela, je ne pouvais pas être expulsé. Mais je n'avais pas de papier. Et quand tu n'as pas de papier, à l'époque aussi, j'enseignais au collège Georges Brassens, ici à côté. Et mon contrat, la responsable, au bout de 6 mois, a décidé de mettre fin à mon contrat parce que tout le monde savait, peut-être c'était sur Internet, que je n'avais pas de papier. Tout le monde savait, les radios en ont parlé. La dame, du jour au lendemain, elle a dit, vous arrêtez le boulot et pourtant j'avais un CDI. Qu'est-ce que moi je pouvais faire? Et je l'ai supplié, car c'était le seul moyen de pouvoir vivre pour moi. Mais malheureusement, le contrat, d'une façon unilatérale, abusive, ils ont mis fin à cela. Pour vous dire que la vie d'un sans-papier n'est pas forcément quelque chose vraiment à envier. Quand je suis venu, ça a été difficile, trouver du boulot, trouver un logement. J'ai une copine qui est ici, j'ai squatté chez elle pendant que Julie est là, pendant plus d'une année. Et ce n'est pas parce que les moyens qui me manquaient, j'avais les moyens. Mais c'est quand tu vas pour chercher un appartement, et on va te demander d'apporter 2 garants ou 3 garants. Mais qui va donner un garant à un sans-papier? Mais et pourtant, j'apportais des preuves en disant que je suis professeur d'université, j'ai les moyens pour pouvoir payer. Mais non, personne, grâce à des bonnes volontés comme elle, comme d'autres personnes, j'arrivais à passer de squat en squat. Et vraiment, juste pour vous dire que ce n'est pas facile et ce n'est pas facile. C'est un combat perpétuel. Nous devons continuer à nous battre jusqu'à ce que vraiment on puisse faire prévaloir nos droits. Et c'est pour cela que je dis à nos camarades, à nos frères, de se mobiliser, de ne pas rester chacun à leur coin en disant que voilà, ça c'est les affaires des autres. Non, parce que l'affaire des autres aujourd'hui, ça peut être ton affaire demain. Aujourd'hui, surtout que nous sommes dans une période où la méfiance est telle sorte que tout le monde se méfie de tout le monde et on ne sait pas qui est qui aujourd'hui. L'immigré devient le bouc émissaire. On pense que le plus grand problème de cette société, c'est vraiment les étrangers. Or ça, ce n'est pas vrai, c'est une fuite en avant. Si l'immigration n'est pas un facteur de cohésion sociale, de stabilité, ça ne peut pas être un facteur de division. Et ça ne peut pas. Et certains politiciens ou des politicards essayent d'utiliser les uns contre les autres en disant que le plus grand problème de cette société, c'est les immigrés aujourd'hui.
Non, mais je voulais revenir sur communautarisme, pas communautarisme, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Moi, je pense que le terme communautariste, en fait, il est assez galvaudé aussi partout, parce qu'on a l'impression, dans le vocabulaire actuel, quand on parle de communautarisme, c'est le communautarisme des étrangers, voilà, toujours. Mais il y a un truc qu'il faut être clair, c'est que le communautarisme, par exemple, entre patrons, il y a du communautarisme. Je veux dire, c'est une communauté qui défend ses intérêts. Et face à une communauté organisée qui défend ses intérêts, qui a de l'argent, qui a toutes les armes, je pense qu'il faut s'organiser aussi entre soi. Et c'est en ça que... moi, le mot communautarisme en tant que tel, je ne l'aime pas, mais s'organiser entre soi, si c'est ça que ça recouvre, alors je suis pour. Et moi, je pense que c'est pareil, il y a la question de pourquoi, comment se mobiliser quand on est migrant. Moi, ça me pose une question, je ne suis pas migrante, par contre, je suis femme, et ça me pose une question de comment les femmes se sont organisées pour faire progresser leurs droits à un moment donné dans la société. Et à un moment, elles ont décidé qu'elles étaient elles-mêmes les plus expertes de ce qui leur arrivait et que donc il fallait qu'elles s'auto-organisent entre elles pour pouvoir lutter. Je pense que c'est une étape de la lutte que de se reconnaître entre soi comme subissant une violence, subissant voilà, des persécutions, pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a analysé entre soi, réussir à se mobiliser plus largement.
Quand je parlais de communautarisme, ma vision du communautarisme est beaucoup plus ethnique ou clanique. C'est ça que je dénonce. Partout où j'ai été, que ce soit en Nouvelle-Zélande où j'ai vécu pendant une année, aux États-Unis pendant une année, quand je vais dans un pays, je ne vois pas pourquoi je dois vivre vraiment avec les gens de ma communauté uniquement. Je me dis, quand je suis en France ici, autant j'aime bien manger dans un foyer, autant j'aime bien aller dans un bistrot, discuter avec des amis, échanger sur les problèmes vraiment qui concernent la cité, la société. Je refuse de m'exclure, de m'auto-exclure vraiment en disant que... En fait, je veux dire que vouloir vivre entre soi, c'est recroque en autarcie, la vie en autarcie, je dis que cela n'amène à rien. Il faut sortir, il faut débattre, il faut rencontrer les gens, il faut discuter.
Alors voilà, c'était le point de vue de Salif Mandela, professeur d'anthropologie à faculté de Paris 8, qui a suscité aussi de vives réactions, comme vous avez pu l'entendre. Et justement, faut-il partager ce constat, pour le moins amer, de Salif Mandela, à savoir qu'on aurait une faible mobilisation des migrants ? Eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage qui a suivi. C'est celui de Maudy Sacco, qui est militant et gréviste lors de la grève des travailleurs sans papiers, lancée en octobre 2009, et dont on parle beaucoup sur nos antennes. Et justement, écoutons ce témoignage, et ce qui permet peut-être de continuer le débat sur l'engagement des migrants en France.
Je m'appelle Maudy Sacco, je suis malien, je suis arrivé en France en 2006. Donc depuis, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment en tant que sans-papier, comme tous les travailleurs sans-papier. Et alors, on a lancé un mouvement le 12 octobre 2009 dans les entreprises pour demander la régularisation des travailleurs sans-papier. Quand je suis arrivé en France en 2006, j'ai commencé à travailler. J'ai arrêté mes études au Mali parce que par faute de moyens, j'ai débarqué en France. Donc arrivé ici, je voulais continuer mes études, mais du coup, je n'avais pas de papier, il faut payer les études, ce n'était pas évident pour moi de continuer mes études. Donc du coup, j'ai cherché du boulot dans les boîtes d'intérim avec des fausses cartes. et avec un vrai numéro de sécurité sociale pour avoir du boulot et pouvoir vivre, payer mon loyer, voilà, vivre comme tout le monde, quoi. Et puis 2007, j'ai toujours travaillé dans le bâtiment. Et après, je me suis dit, il faut, en tant que travailleur, il faut peut-être se syndiquer à la CGT, vu que je n'ai pas de papier. Donc un jour viendra, peut-être qu'ils peuvent me défendre, ils peuvent défendre mes droits en tant que travailleur. Donc j'avais eu cette idée déjà, je me suis syndiqué. Je suis allé dans une union départementale dans l'Essonne, là où je travaillais. Et ils m'ont syndiqué tout de suite, ils ne m'ont pas demandé de papier. Voilà, j'ai juste donné mes fiches de paye et tout. Donc j'ai été syndiqué, j'ai ma carte syndicale. Et j'ai commencé à travailler dans le bâtiment.
Donc justement, comment ça se passe à la CGT, justement, à concilier les, on va dire le gros des troupes syndicales français et les immigrés, sur la question des sans-papiers en particulier?
Écoute, déjà, à la CGT, il n'y a pas une question de nationalité à la CGT. Donc tout le monde, c'est une question de travail à la CGT. Donc que tu sois d'origine étrangère ou français, c'est l'identité travailleur qui existe dans la CGT. Donc tout le monde, tu peux être syndiqué en tant que travailleur. Et ce mouvement de travailleurs sans papier a été lancé en 2006, lors de l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir comme ministère de l'Intérieur. Il a fait sa politique de la SAS des travailleurs sans papier, notamment les travailleurs de l'Afrique de l'Est, pour pouvoir faire venir les travailleurs de l'Est pour vraiment nous remplacer en gros, quoi. Voilà, c'était ça sa politique. Et en 2008, il y a eu quelques grèves dans les entreprises avec les syndicats de l'Essonne, notamment l'UL de Massy, avec Raymond Chevaux, qui est le coordinateur national aujourd'hui des mouvements des travailleurs sans papier. Et cette grève a été lancée dans le cadre des licenciements des sans-papiers dans les entreprises dans l'Essonne. Donc les sans-papiers se sont vus licenciés par faute grave, alors qu'ils n'ont pas fait faute grave, quoi. Donc c'était débile du fait qu'ils n'ont pas de papier. Donc du coup, Raymond Chevaux, il s'est posé la question en disant, ben, écoute, 16 ans, avant on les considérait des sans-papiers, mais maintenant c'est des travailleurs. Parce qu'ils ont des fiches de paye, ils payent les impôts comme tous les salariés. Donc maintenant, on a le droit de grève. Donc l'idée de lancer des grèves dans les entreprises, ça, c'est venu comme ça. Alors ils ont fait grève dans les entreprises. Il y avait 3 entreprises qui étaient en grève dans l'Essonne. Et du coup, il n'y avait pas de critères. Il n'y avait pas de critères de régularisation des travailleurs sans papier. Mais ils ont obtenu quand même des négociations avec la préfecture de l'Essonne pour pouvoir régulariser dans le calme ces travailleurs. Et ils sont réintégrés dans l'entreprise, ils ont commencé à bosser. Donc, et avec ces mouvements, donc, tous les travailleurs venaient voir Raymond Chevaux à l'UL pour leur dire, voilà, donc nous, on est des travailleurs comme les autres salariés qui ont été régularisés tout récemment. Donc on veut aussi notre régularisation en tant que travailleurs. Donc du coup, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de critères. Il y avait des bouts de texte que le ministère de l'Intérieur a envoyé dans les préfectures pour dire au patron, vous pouvez régulariser vos salariés si vous voulez régulariser, en fait. Donc, il donnait le pouvoir au patron de régulariser un salarié ou pas. Donc, c'est les patrons qui décidaient, en fait. Donc, c'est toujours favoriser les patrons à exploiter les travailleurs du fait qu'ils n'ont pas de titre de séjour parce qu'il n'y a pas de critères précis. Et moi, j'ai vu tout ça à la télé avec ces mouvements de 2008 et tout. Donc après, on s'est organisé dans les entreprises avec nos collègues de travail. C'était fin 2008. Donc on a rencontré les syndicats pour leur dire, ben, écoute, puisqu'il n'y a pas de critères de régularisation, on n'est pas sûr d'être régularisé en tant que travailleur. Donc maintenant, il faut faire quelque chose, quoi. Il ne faut pas attendre parce que là, il y a vraiment une pression énorme de la part du gouvernement, de la politique, pour vraiment nous chasser du marché du travail. Donc, alors que nous, on est là, on occupe des postes depuis des années et des années, on prenne le boulot des personnes, donc il n'y a pas raison de nous chasser et mettre d'autres travailleurs sur nos places. Ce n'est pas possible. Donc on va se battre, on va prendre un risque, on va sortir dans l'ombre, on va sortir dans la lumière parce qu'on était cachés, en fait, du fait qu'on était cachés dans les entreprises, du fait qu'on n'a pas de papier. Donc on a dit, nous, on va prendre un risque de se dévoiler pour dire, bon, nous, on est des travailleurs, ça suffit maintenant. Il faut régulariser les travailleurs comme tous les salariés pour pouvoir finir avec cette exploitation de l'esclavage moderne, quoi. Alors, c'est un peu historique. Donc, ce mouvement a été lancé. Donc, du coup, on a essayé, on a discuté avec les syndicats, les 5 syndicats et les 6 associations qui ont formé un groupe de 11 qui ont vraiment écrit une lettre au Premier ministre le 1er octobre 2009 pour dire attention, il y a des salariés sans droit dans les entreprises, il faut trouver une solution plus rapidement possible. Donc le Premier ministre, il n'a pas réagi tout de suite. Donc du coup, nous, on a organisé plusieurs réunions avec les syndicats et les associations et en se mettant en contact avec les travailleurs dans les autres entreprises. Donc pour se mettre en grève dans les entreprises, pour déclencher une grève le 12 octobre 2009, on était 1300 travailleurs sans papier à se mettre en grève dans les entreprises le 12 octobre 2009. Et le 12 octobre, novembre, on était 6700 grévistes dans les entreprises. On a arrêté le boulot, on a dit trop c'est trop, maintenant ça suffit. Il faut des critères, on ne va pas déposer tout de suite des dossiers de régularisation puisqu'il n'y a pas de critères. Donc il nous faut des critères avant de déposer les dossiers. Donc on a lancé les grèves, on dormait, on a fait des piquets de grève dans les entreprises avec les syndicats, les partis politiques qui venaient nous voir. Après, donc on a donc lors de ces grèves qui ont déclassé, ça a été médiatisé partout en France. Il y avait au moins 2040 entreprises en grève. Donc c'était pas voilà, c'était bien médiatisé. Après, au mois de novembre, il y a eu des négociations avec le ministère de l'Immigration, ex-ministère de l'Immigration, parce qu'il n'existe plus, puisque le mouvement a participé à la destruction de ce ministère. Donc, au mois de novembre, il y a eu ces négociations. Donc, du coup, le ministère a balancé une circulaire de régularisation dans les préfectures sans tenir compte des négociations qui ont eu lieu avec les syndicats sur la question des régularisations. Donc, après, nous, on était organisés. Ce n'était pas un mouvement dispersé, c'était un mouvement... On était organisé sous forme des piquets. Dans tous les piquets, il y avait un délégué des piquets. Tous les lundis, on avait une réunion au niveau du siège de la CGT pour discuter de la suite et faire les orientations de la lutte. Ce n'est pas une lutte qui est dispersée où chacun pense à sa gueule, quoi. C'est une lutte collective. Donc après, au mois de novembre, cette circulaire, on a fait une analyse de cette circulaire. On a vu que cette circulaire, toujours... favoriser vraiment le pouvoir discrétionnaire du préfet. Et donc on a dit, nous, on ne veut pas de cette circulaire parce que ça n'a aucune valeur juridique. Ça permet le préfet de régulariser celui qui veut. Donc voilà. Donc, on a continué. Du coup, on n'a pas déposé de dossier, on a continué la grève. Donc notre stratégie maintenant, c'est faire quoi? C'est faire pression sur les patrons qui nous ont exploités pendant des années, pour leur dire maintenant, c'est à vous. Il faut prendre vos responsabilités. Nous, on est vos salariés depuis des années. Maintenant, il faut un bras de fer contre le gouvernement. Il faut se mettre à côté de nous. Donc, du coup, on a gagné ça au mois de mars. Une partie du patronat comme le MEDEF, la CGPME, petites et moyennes entreprises, qui ont travaillé avec les syndicats pour dire publiquement au gouvernement, il faut arrêter avec cette injustice vis-à-vis de nos salariés parce que ces gens... On les a formés depuis des années. Donc, les patrons, ils se sont exprimés sur le monde, dans les médias, pour dire ça suffit. Donc, du coup, le ministère, il était un peu mal, quoi. Parce que vu que les patrons sont à côté de nous, donc on a eu vraiment, on a créé vraiment un rapport de force énorme qui fait que, donc, on a pu avancer dans la lutte. Donc, ils ont fait des critères, pas des critères, les syndicats et les patronons, ils ont fait une approche commune. Une approche commune pour dire, nous, on veut que les salariés qui ont travaillé pour nous soient régularisés sur la base de ces critères-là. Voilà, donc il faut qu'on discute sur la base de ça. Donc au mois d'avril, il y a eu des négociations avec le ministère du Travail et le ministère de l'Immigration qui ont vraiment traîné l'affaire. Donc du coup, on a décidé collectivement d'occuper l'Opéra de Bastille le 27 mai pour dire, maintenant, on veut des critères, on ne bouge pas. Pendant 3 semaines, donc le 18 juin, on a eu le critère de régularisation qui définissait vraiment la régularisation des travailleurs et des travailleurs sans papier. Donc on a commencé à déposer des dossiers. Donc c'était encore une autre bras de fer qui a commencé. Parce que vu que le ministère a balancé le texte, et du coup les agents dans la préfecture font ce qu'ils veulent sur ce texte, ils interprètent de leur manière, c'est toujours dans l'arbitraire préfectoral. Aujourd'hui, on avait déposé 4000 dossiers. Sur les 4000, on est à 2700 régularisations, qui n'est pas encore, parce que c'est des récépissés de 3 mois, Donc c'est pas encore officiel, mais c'est en cours. Il y a encore d'autres dossiers qui traînent dans les préfectures. Mais la lutte, on est encore là, quoi. On continue, quoi. Voilà.
Sam Carpigna, les voyageurs sur fréquence Paris Pluriel 106.3. On est toujours donc dans les oreilles loin du front et je suis en train de vous faire écouter le débat qui s'est tenu samedi 4 juin dernier dans le foyer Lorraine, donc dans le cadre de ce troisième festival du cinéma des foyers, et le débat concernait l'engagement des migrants en France. Alors je vous propose de continuer dans le débat, voir comment continuer à se mobiliser. créer, comment faire en sorte de continuer les luttes, puisqu'il n'y a pas uniquement les luttes pour les travailleurs sans papier, mais plus globalement pour tous les migrants. Et s'il y a des difficultés parfois, puisque c'est ce que les témoins et les personnes présentes aussi montrent, s'il y a des réticences, eh bien, comment s'explique-t-elle ? Mais je vous propose d'entendre à nouveau Maudy, Salif et également Farouk, qui est venu aussi intervenir donc, dans ce débat.
Pas seulement les papiers. Moi, je pense que sur l'engagement des migrants en France, syndicalement, politiquement, il faut que nous, les migrants déjà, on se rende compte, qu'on se rende compte de la gravité de la politique migratoire en France. Donc il faut que nous, on se rende compte dans les foyers, qu'on se réunisse, qu'on discute entre nous, avec les syndicats, les organisations politiques, qu'on fait un bilan sur la politique des migrations en France aujourd'hui. Si on ne s'intéresse pas vraiment de la politique migratoire qu'ils sont en train de mener, ben on ne peut pas se mobiliser. Donc, et pour changer cette politique des migrations, il faut s'organiser. Il faut vraiment lutter pour dire à tous les politiciens qui, dans les médias, à la télé, disent des choses sur l'immigration, soi-disant l'immigration, c'est vraiment le problème du pays. Alors que c'est le contraire. Il ne faut pas dire seulement que vraiment on a une politique qui est à l'encontre de nous, mais il faut se lever, il faut s'organiser collectivement, il faut vraiment dire la réalité de ce qu'on vit en France. La réalité, c'est quoi ? Que nous, on est des travailleurs en France, qu'on participe à l'économie française en tant que tous les salariés, en tant que tous les Français. Mais parce que cette politique a installé, cette politique, moi je pense personnellement, cette politique a installé la peur au ventre des gens. De rester toujours dans l'individualisme. Parce que même si on voit les Français, cette politique envers même les Français, pas seulement les immigrés, ils ont installé la peur vraiment dans toutes les personnes. Donc du coup, tout le monde pense qu'à soi, dans sa gueule, dans l'individualisme. Donc du coup, on pouvait pas s'organiser. Donc c'est ça la grosse difficulté. Sinon en face, si on arrive à s'organiser, à se mobiliser en face, ils vont péter. Ils ne peuvent pas résister à cette masse. Mais du coup, on est saqué dans notre coin, donc c'est difficile. Voilà.
Quelqu'un a parlé de cette difficulté de s'organiser. La difficulté, effectivement, vous avez parlé, lui, il a parlé de la peur qui règne aujourd'hui. Certes, il y a la peur, mais aujourd'hui, j'ai dit, la situation. Moi, je suis à la fac. Les étudiants qui sont à peu près, il y a 40 à 45 étudiants sans papier. Et souvent, ils viennent me voir. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour faire une lettre d'assiduité. C'est-à-dire pour aller à la préfecture, pour le renouvellement de la carte de séjour, il faut que le prof fasse une lettre d'assiduité. Mais sauf le prof lui-même, il est sans papier. Et comment tu veux que je fasse une lettre d'assiduité ? Mais il arrive souvent que je fais la lettre d'assiduité. Je lui dis, bon, maintenant, par contre, le samedi prochain, il y a une manif à Barbès. Et j'espère que je te verrai. Mais ouais, je vais venir, ils ne viennent pas. Mais souvent, j'ai essayé de, quand même de comprendre. Parce que très souvent, que ce soit dans le milieu étudiantin que je connais très bien, ou dans les foyers où j'ai quand même côtoyé aussi, beaucoup de personnes, certes, ils travaillent. Ils sont là parce qu'il y a des familles derrière eux, au bled. Ils doivent travailler, ils doivent beaucoup envoyer de l'argent. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre vraiment tout un village, tout entier. Je suis conscient de tout cela. J'ai vécu. Mais je me dis, ce n'est pas parce qu'on doit nourrir 10 personnes, 20 personnes, que cela doit nous empêcher de se battre aujourd'hui. Il faut s'organiser, il faut se battre. Si on laisse la peur gagner, on ne pourra rien avancer. Certes, il y a des difficultés. Hein, il y a des difficultés d'ordre économique. Il y a des difficultés d'ordre linguistique. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir réclamer ses droits, il faudra-t-il le reconnaître ? Quels sont tes droits aussi ? Comment les gens pourront reconnaître leurs droits ? Il faut qu'on le dise oui ou non. Les gens doivent vraiment apprendre à lire et à écrire. L'alphabétisation est une bonne chose. Le simple fait de savoir lire ton nom, moi je suis bénévole aussi dans des foyers dans le 13e où j'apprends aux adultes. Je sais que c'est difficile, mais je me dis que c'est une étape. C'est une étape. Apprendre à lire et à écrire est une étape pour pouvoir s'émanciper. Ce n'est pas facile, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une étape nécessaire.
Bon, écoute, sur cette question d'éducation, moi, je suis d'accord avec lui, le fait d'aller à l'école, d'apprendre à lire, à écrire et parler français, c'est déjà bien, en fait. Bon, moi, je pense que ce n'est pas une obligation. une obligation du fait que les migrants qui viennent en France aujourd'hui, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui viennent ici pour vraiment nourrir leur famille, des gens en général, ces gens qui vivent en France, ils parlent déjà français. Ils parlent français sauf qu'ils ne savent pas écrire en fait. Sinon, ils savent parler en français parce que dans les sentiers, dans tous les, dans leur lieu de travail, ils s'expriment avec leur cercle d'équipe. Donc ça, c'est le problème de langue, ce n'est pas un problème pour les migrants en France. Ceux qui ont vécu en France depuis des années, je vous dis tout à l'heure, dans le mouvement, on n'a pas rencontré cette difficulté de langue. Donc le seul problème qui est, c'était vraiment la difficulté de vivre dans la paix en France, de pas, d'être démuni, c'est tout. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Farouk, je suis retraité, je passais par là. Et puis il y a des heureuses rencontres. Enfin, moi, il se trouve que j'ai une vie militante aussi. Je suis un vieux monsieur, donc qui a quand même. Je suis immigré aussi, pour ceux qui ne l'ont pas deviné. J'ai travaillé en entreprise fort longtemps à Renault, Renault-Billancourt, pendant quelques décennies. J'ai suivi l'affaire des foyers, parce que j'étais aussi très actif dans les foyers. Je crois qu'il ne faut pas renverser la donne. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans les foyers, où il y a eu une politique qui a été mise en place pour les transformer en logements quasiment sociaux, c'est-à-dire véritablement, il y avait véritablement une volonté de chasser les migrants qui y habitaient pour les remplacer par d'autres populations qui sont aussi dans la précarité. Je crois que la vraie question aujourd'hui, c'est quel est le problème, ou plutôt quel est l'enjeu qui est posé aujourd'hui au foyer. L'enjeu qui est posé au foyer aujourd'hui, c'est malgré tout, dans le cadre de la précarisation du logement en général. Il y a une précarisation très, très grande de populations, y compris des couches moyennes, qui fait que peser encore plus sur les résidents dans les foyers. Je crois que c'est une vraie question. Et la vraie question, ce n'est pas seulement d'interpeller les résidents des foyers en leur disant « il faut vous battre », il faut véritablement que les différentes catégories sociales, plus ou moins fragilisées par cette politique de non-logement, si je puis dire, ou de la crise du foncier, s'articulent entre elles et se solidarisent entre elles. Je crois que c'est ça la vraie question. Et par voie de conséquence, on sent aujourd'hui, en tout cas moi c'est mon point de vue, c'est qu'au niveau des organisations politiques, des organisations syndicales classiques, il y a réellement une démission par rapport à cet enjeu-là. Il y a un refus, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, dès que l'on voit du côté de la migration, des côtés de certaines populations dites étrangères, ou pseudo-étrangères, parce que ce n'est pas seulement pour les étrangers, c'est y compris ceux qui portent quelque part l'image de l'étranger, même s'ils sont français. Les partis politiques, parce qu'il y a une lepénisation, il faut dire le mot est lâché, il y a une réelle lepénisation, il y a une véritable terreur à regarder de ce côté et à inscrire cette bataille dans l'enjeu global. Moi, j'ai entendu ce matin dans France Culture, j'étais sidéré, vraiment sidéré. Il y a eu un débat avec Finkielkraut, etc. Et j'ai entendu un grand dirigeant du Parti Socialiste essayer de défendre la cause des jeunes d'origine étrangère, dont les parents sont d'origine étrangère, c'est-à-dire des Français, en disant « mais ils font tout pour s'intégrer ». Le fait de dire ça est, à mon sens, une grave faute politique. Ils n'ont pas à faire l'effort de s'intégrer. Est-ce que la société française, est-ce que les pouvoirs politiques mènent une stratégie qui leur permet de pouvoir laisser, de donner toute leur place à ces jeunes, oui ou non? C'est ça la vraie question.
Ma ville a ses petits avions, jolis comme des papillons. Mais qui les prend, à votre avis? Qui les prend, c'est compris. Ma ville a ses jardins où le bonheur s'arrête aux environs de 18 heures. Car les kiosques à la gloire de la patrie n'aiment pas le bruit qui rêvent de lutte de classe et qui portent des t-shirts diapasses ils veulent pas oublier que tout ne peut pas s'oublier. Et si c'est en chantant, moi j'ai choisi mon camp. Y'a des djembés qui sous la bourrasque font chanter tous les pays basques. Sans déconner, il était temps. Des Sénégalais chantent l'Occident. Y'a ceux de Malte, de Jérusalem, qui vivent aussi en bas des HLM. Au milieu de tous ceux qui sont pas nés de l'autre côté, ils ont pleuré des années durant d'être oranés, mais plus jamais d'orang. Ils veulent pas oublier qu'ils étaient pas les premiers. Et c'est depuis longtemps qu'ils sont là, et pourtant ils pleurent, mais moi je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Mais moi je reste, je le dis sans conteste. J'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Hey, wow. Ma vie là c'est plate et c'est plot, qui font d'elle un petit enclos. Pour ceux qui font des balades en vélo, pas pour ceux qui rentrent au galop. Ils ont l'accent mais ils ont pas l'accès. Tout ça, ça vous fait de méchantes poussées. Comme une guerre qui porte son nom à chaque prénom. À toujours descendre les mêmes escaliers et toujours tomber sur le même palier. Pas assez. Et si de temps en temps il passait du bon temps, moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé.
J'y reste avec les Zebda, bien sûr. On est toujours sous fréquence Paris Pluriel. C'est la dernière partie du débat donc, qui se tenait foyer Lorraine sur donc, l'engagement des migrants. Et l'enjeu de l'engagement des migrants, c'est aussi le foyer. Le foyer, le lieu de vie des migrants célibataires, endroit subi parfois, mais aussi endroit de vie, endroit de lutte où on peut lutter et s'organiser. On va entendre successivement Serge, un militant, puis Alassane Ba, le délégué du foyer Lorraine, et enfin Salif Mandela, professeur à l'université de Paris 8. Donc on commence avec Serge.
Bonjour, je suis Serge, je suis du 13e arrondissement et puis je suis retraité de la SNCF et au syndicat solidaire Sudrail. Ce que je voulais parler, parce que plusieurs choses, on a parlé de la faible mobilisation, mais je pense que la faible mobilisation n'est pas que chez les émigrés aujourd'hui, quoi. C'est un état de fait de partout, quoi. Bon, moi, j'ai connu les périodes des années 70 où, bon, avec les luttes qu'on a connues dans les foyers Sonacotra, les luttes des OS dans les diverses usines, bon, il y avait tout un tas de luttes qui faisaient qu'aussi la population était partie prenante et adhérée, quoi. Bon, dans ces dernières années, il y a eu quand même aussi pas mal de luttes, hein, la lutte des sans-papiers. Bon, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas adhéré. Beaucoup de gens ont adhéré à ça, quoi. Ils ne comprenaient pas. Moi, j'entendais des réflexions du style, mais comment ça se fait? Ils travaillent, ils ont pas de papier. Les gens, ils se posaient des questions bêtes comme ça, quoi. Ils découvraient. Et donc, cette lutte a permis aussi d'ouvrir les yeux à beaucoup de gens, quoi. Ils ne comprenaient pas. Ben oui, c'est les patrons qui exploitent les gens. C'est comme ça, quoi. Alors, par contre... sur le 13e arrondissement, bon, on a eu la lutte des sans-papiers à Cantagrel, où il y a beaucoup de la population qui a participé. On a eu l'expulsion de la maison de Côte d'Ivoire aussi, qui a été quand même une bonne lutte. Ça nous a duré 2 ans parce qu'il a fallu à la fois reloger les gens et aussi beaucoup de sans-papiers. Alors par contre, il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées parce que des fois, c'est peut-être pas évident. Il y a la maison de Côte d'Ivoire, il y avait des foyers de travailleurs, on ne savait pas où se réunir. Bah, les copains qui étaient à la Côte d'Ivoire, ouais, mais bon, les Maliens, ils ne vont pas nous recevoir et tout, et pourquoi? Et finalement, on a pu se réunir là-bas, quoi, ce qui était quand même formidable. Déjà, d'une approche, on est à 300 mètres quoi, et on ne se parle pas, quoi. Et depuis, on peut dire 2 mois, sur le 13e arrondissement, on a fait une coordination des foyers. Alors, c'est très important parce que sur le 13e, c'est quand même 25% des foyers de la région parisienne, enfin de Paris, qui se trouvent là-bas. Et donc, on s'est réunis pour essayer d'avancer ensemble sur les revendications des foyers. Parce que jusqu'à maintenant, ben, c'est vrai que chacun se battait pour son petit truc, quoi. Et on s'est dit, si on peut faire collectivement mener une lutte ensemble, alors... Il y a les délégués des foyers qui sont là. Et puis, il y a toutes les... Non, c'est des associations. Hein, les partis ne sont pas là. C'est, bon, comme syndicat, il y a Solidaire, il y a RECEF, il y a le COPAF, il y a le MRAP, tout ça, quoi, toutes ces associations qui sont dans le 13e. Et on a fait un rassemblement samedi à 11h devant la mairie du 13e. Devant la mairie du 13e, parce qu'on lui a demandé une entrevue, quoi. Voilà. Donc, c'est des choses qui avancent comme ça, quoi, cette coordination. Alors, bien sûr, au cours des réunions, se pose la question, mais pourquoi pas déjà faire une coordination de tous les foyers de Paris? Oui, à un moment donné, on se le posera la question. Alors, déjà, on l'a fait dans le 13e, c'est déjà 25% des foyers, et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer, quoi.
Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde déjà. Ben, je m'appelle Balassane, je fais partie du comité des résidents du foyer rue de Lorraine ici. Donc, parler politique, c'est pas trop mon truc, mais de ce qu'on vit tous les jours ici, ça, j'en connais un tout petit peu, pas tout, hein, mais je connais un peu. Donc, avec l'ancien gestionnaire d'ici, Aftam et Sundiata, on avait des problèmes, mais les problèmes se sont amplifiés dès que Aftam a repris les foyers ici. Parce que Aftam nous a fait comme un truc butoir. À chaque coup qu'on dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette chambre, il y a ça qui ne va pas. Oui, les foyers vont être rénovés. Les foyers vont être réhabilités. Ah, donc de ce fait, et ils nous sortaient un autre truc aussi. À chaque coup, face à eux, on ne savait plus quoi leur répondre. Soit ça partait dans tous les sens après pour nous embrouiller. Pour dire, voilà, les crédits vont être votés, ça va se faire en 2011, c'est 2012, c'est 2013. Pendant ce temps-là, on vit dans une poubelle ici. Personne n'aime vivre ici. Ils nous disent quoi? Oui, parce que les foyers, il y a de suroccupation. Ben, une fois, on était à la réunion avec eux à la mairie. J'ai dit, problème de suroccupation, c'est un problème politique. Parce que si vous faisiez votre travail, si c'était un lieu de transit, on n'aurait pas resté 30 ans ici, 40 ans. Et si vous êtes... Pourquoi les immigrés, il y a pas mal de gens qui aimeraient s'engager dans des luttes du terre à terre, mais que les gens, finalement, même s'ils s'engagent à la fin, ils sont déboussolés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de partenaire à qui... parce que les étrangers, ça, c'est notre défaut. Chacun voit, je fais ça aujourd'hui, demain, j'ai le résultat. Mais c'est des choses qui demandent du temps. Et vous pouvez, vous voyez, le nombre d'habitants qu'il y a ici, si on descend ici, même jusqu'au métro là-bas, on va arriver. Hein. Ils sont là, on dirait, ils ne sont pas concernés. Mais on ne regarde pas ces gens-là. Sinon, on ne fait rien. Nous, on fait des réunions ici, on nous traite de politiciens. Nos propres compatriotes, hein, des fois dans la famille. Pourquoi tu t'emmerdes pour les gens ? Va, tu fais ton boulot comme eux et puis tu viens dormir. Mais il y en a qui... On accepte, tout le monde n'accepte pas ce langage. Donc, nous ici, il y a des gens même qui ont des familles au pays qui sont dans la politique. Ils savent bien ce qu'on vit ici. Ça les arrange qu'on ne peut pas parler politique ici parce qu'on n'a pas les reins solides. Ça les arrange les politiques de chez nous. Comme ça arrange ici. Ils marchent ensemble. Le bonheur de l'un, c'est le bonheur de l'autre. Si vous ramassez 200 Maliens aujourd'hui, incognito aussi, les journalistes français n'ont pas publié, ils vont les débarquer pieds nus à Bamako, personne n'en parle. Ça, c'est un côté. Depuis que, bon, je reviens à l'AFTAM ici, nous, on en a eu marre de toutes ces histoires, parce que l'État les a imposés, soi-disant, pour prendre tous les foyers, sans exception, gna 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 gna, mais tout ça, c'est du pipeau. Donc, ce qui se passe ici, on nous cantonne comme ça. En payant des loyers ici, vous avez des chambres 300, 400 euros. Si vous avez quelque chose qui est cassé, mais non, ils jouent la montre. Ils ne vous disent pas non. Hein. La nouvelle direction, c'est ça qu'ils ont trouvé comme technique. Ils ne te disent jamais non. Oui, oui, vous inquiétez pas. Même ce que vous avez oublié de dire, ah oui, il y a ça et ça aussi, on va le faire tout de suite. Mais ça ne se fera jamais. Donc, on a resté comme ça. On a créé ici une association à Solflow. On a même les associations du quartier, ils sont tous au courant. On a fait venir le propriétaire ici. Oui, c'est le même discours. Hein. On dirait qu'ils se sont passés le mot magique. Réhabilitation, ça sera en 2011, 2012, 2013, 2014, ainsi de suite. Bon, où on est ? On a essayé ici de dire, quand ils nous ont opposé ici la suroccupation, d'ici, vous faisiez un peu le transit, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, ceux qui n'ont marre du foyer, on va vous mettre dans les HLM et tout ça. Il n'y aurait pas de suroccupation. Et tout ça, ça tombe. On a ramassé ici plus de 100 résidents qui avaient des fois un mois, deux mois, trois mois de loyer de retard. Pour ne pas faire de bruit, alors non, on trie, on tire. Un, deux, trois, quatre, au tribunal. Commandement de payer, expulsion. Nous, on essaie tout ça de ne pas heurter trop les. On vous dit, c'est pas grave, même si vous sortez, on va essayer de négocier avec l'AFTAM et tout ça. Mais comme c'est dans leur intérêt, la piole, elle est toujours payée. Hein. Bon, on en est là. Jusque-là, tout ce qui est ici, même aujourd'hui, vers 11h, il y a un délégué qui habite au deuxième, là, ça a explosé chez lui, l'eau, les résidus, le refoulement. Ça, c'est quotidien ici. Mais on ne fait rien. Et ça, ça nous exaspère. Et nous, on ne laissera pas, on le dira tout le temps. Ça soit fait ou ça soit pas fait, on le fera. Mais on le fait d'une façon un peu aussi désordonnée. C'est pour ça, quand tu as affaire avec des gens comme ça, ça c'est, vous vous rendez compte, il y a des chambres là ici, c'est invivable. Mais bon, c'est comme ça. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est des partenaires avec qui ? Avec notre petite association, avec nos petits moyens. Il y a des gens qui ont la bonne volonté ici de faire changer les choses. Nous, pour changer d'abord, on commence ici par où nous vivons. Parce que nous, on n'a rien de malien aujourd'hui ni de sénégalais. 30 ans, 40 ans en France. Qu'est-ce que tu connais là-bas ? Tu ne connais rien là-bas. Tu vas là-bas pour deux mois, trois mois, tu reviens ici. Qu'est-ce que tu sais là-bas ? Tu ne sais rien. Et ici, on t'empêche de savoir. Pourquoi ? Parce qu'entre nous-mêmes, on ne peut pas s'organiser. On a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes. Il y en a aussi des gens comme moi, un peu pantouflard. Oui, mais voilà. Mais il y a quelques-uns quand même qui n'acceptent pas cette situation. Voilà. Et nous, on vous remercie, on vous encourage bien, toujours, même si ce n'est pas un festival de cinéma au foyer, de temps en temps, on a des réunions privées tous les mois. Avant, on le faisait tous les 15 jours, maintenant tous les mois. On expose tous les problèmes du foyer. Si nous avons des partenaires qui nous aident dans ce sens-là, et puis même d'autres choses et d'autres choses, nous, nous sommes partants. Et je vous remercie et on vous souhaite...
Voilà.
En fait, Alassane, je vais rebondir par rapport... Il a touché quelque chose vraiment qui m'interpelle et que j'aimerais bien aborder un peu. C'est par l'incapacité vraiment de nous, Africains aussi, surtout les autorités. Moi, j'ai dit, en 2006-2007, par rapport au Mali, je peux en parler. En 2007, nous avons fait... C'est quand j'ai dit nous, je faisais partie des gens, on a adressé au président de la République, sur recommandation d'eux-mêmes, on est rentré dans 700 foyers. 700 foyers et nous avons fait un mémorandum de la vie des migrants maliens en France ici. Je suis sûr qu'il l'a eu. Ce n'est pas parce qu'il l'a eu à travers quelqu'un d'autre. Hein. De main à main, nous l'avons remis parce que je faisais partie des gens qui l'ont remis. Moi, je suis sûr qu'on est sorti, il l'a mis à la poubelle. Je suis sûr. Oui, il nous a insultés. Parce qu'il va dire qu'on est fou, on est malade. Mais Dieu seul sait s'il savait réellement où se trouvent les migrants. Et dès que tu commences vraiment à parler de ce problème-là, à l'ambassade ou au consulat, on va dire que vraiment tu es un gauchiste. Mais c'est ça qu'ils vont dire que tu es un gauchiste. Et effectivement, il a dit la même chose. Quel est le discours que ces gens-là tiennent? Il dit que tu feras mieux vraiment de t'occuper de toi-même. Tu feras mieux vraiment de travailler pour toi-même au lieu de penser à tout. Qu'est-ce que tout cela va t'apporter? Souviens-toi que tu as été expulsé. Souviens-toi qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pourquoi vraiment tu te bats pour eux? Mais je dis, il faut que au moins tout le monde ne peut pas avoir cette conscience. Mais il faut au moins un ou deux personnes puissent prendre conscience qu'il y a des milliers de personnes qui vivent dans des souffrances terribles, que nous ne pouvons pas aller comme ça. Nous avons un devoir et une obligation morale de se battre pour nos compatriotes, pour nos frères et pour l'humanité tout entière. Mais ces gens-là, ils s'en fichent. Ils s'en tapent aujourd'hui, vraiment. L'immigration, c'est le dernier souci, vraiment, de nos gouvernants. Et dans un pays où l'honnêteté est devenue un délit, des milliers de personnes vont commencer à traverser le Sahara pour venir ici, parce que les gens pensent que c'est l'Eldorado. C'est quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu termines tes études, tu vis chez tes parents, qui te nourrissent à 40 ans encore, quel est l'idéal le plus humble pour un être humain? C'est de pouvoir travailler, vivre dignement. Et aujourd'hui, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté à Bamako, j'avais 20 ans, je suis ici, ça fait 10 ans, j'en ai 30 ans. Mais c'est quand j'ai terminé mes études là-bas, il y a des gens qui étaient dans la même classe que moi, qui vit encore chez leurs parents, c'est-à-dire qu'à 30 ans, 32, 33 ans, mais je vous assure que quand je vais là-bas, mais l'objectif qu'ils ont dans leur tête, comment faire pour traverser le Sahara et venir ici? Ils veulent tous venir. Ils veulent tous venir parce que ça ne va pas. Parce que nos gouvernants sont corrompus. Ils sont à des mèches avec le gouvernement d'ici, aujourd'hui. L'exemple est palpable. La lutte des travailleurs immigrés ici, là-bas aussi, il y a des luttes. Et regarde, des gens qui travaillent dans les sociétés comme ICOMA, dans les sociétés comme la CMDT, qui sont exploités par des entreprises françaises. Et le Mali, c'est l'un des pays, c'est le premier ou le deuxième producteur d'or, l'or de qualité, depuis 40 ans. Les gens qui vivent à Siama, à Kaï, depuis 40 ans, il y a des problèmes d'environnement. Depuis 40 ans, dans ces villages-là, il n'y a pas d'école où ces familles-là puissent envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont exploités et surexploités. Et pourtant, on dit que l'or du Mali est de première qualité. Et l'or, c'est 70 milliards du budget national. Et ces 70 milliards, je vous assure qu'il n'y a pas d'eau potable dans le village où on exploite de l'or. Et c'est le même cas au Niger avec l'uranium. La France, 85% vraiment de l'électricité de la France provient de l'uranium. Et l'uranium, c'est où on exploite l'uranium, c'est au Niger. 85% de l'uranium mondial, c'est au Niger. Et les Touaregs du Niger, il n'y a pas 22 jours de cela, j'étais en Serbie avec des Touaregs pour une conférence. C'est lamentable la situation. C'est partout, il y a la crise. Les gens doivent se mobiliser. La révolte est imminente. Il faut qu'on se révolte. Vraiment, si les gens ne se battent pas, vraiment, on ne va pas. Il faut se battre pour arracher nos droits. Ce n'est pas en s'asseyant dans nos salons qu'on va venir nous trouver.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place.
personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il était une fois un continent pris en otage. Se demande pourquoi il ne peut pas sortir de sa cage. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. On cherche le bonheur dans les cartes. On cherche mais on ne le trouve pas. Pourquoi faut-il toujours qu'on parte alors que l'Eldorado est là? On veut voler de nos propres ailes. C'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin, l'étincelle. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. N'ayons pas peur de l'ouvrage. N'ayons pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il faut se lever. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place.
La voix de Tikenja Fakoli pour faire changer tout ça. C'était un débat enregistré le samedi 4 juin au foyer Lorraine. Il y avait donc en présence de plusieurs intervenants, il y avait Salif, Maudi, Farouk, Serge Alassane et une militante du COPAF. Et donc sur le sujet évidemment de l'engagement des migrants en France.